BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Combien de victimes a réellement fait François Vérove, alias le Grêlé? Pendant des décennies, cet homme a multiplié les crimes les plus barbares en jouant de son statut de gendarme, puis de policier. BFM TV vous dévoilait cette semaine qu'une nouvelle affaire pourrait s'ajouter à la longue liste des crimes du Grêlé. Une enquête que le pôle de Nanterre a décidé de rouvrir pour la relier ou non à François Vérove. Une affaire qui remonte à 35 ans et la découverte d'un homme abattu dans une forêt près d'Évry. Élisa Tral.
C'est un petit bois communal, bien connu des voyous et des exhibitionnistes. Mais un cadavre attaché à un arbre, jamais promeneur n'en avait encore fait la découverte à Saint-Aubin. Le 6 juin 1990, les gendarmes alertés retrouvent le corps d'un quadragénaire tué d'une balle derrière la tête. La munition les intrigue. Elle provient d'un pistolet automatique Mac 50, l'arme utilisée à l'époque par la gendarmerie. Dès le lendemain, le chéquier de la victime est utilisé à plusieurs reprises autour de Paris pour l'achat d'une moto et d'un magnétoscope notamment. Aux enquêteurs, le vendeur d'appareils électroniques raconte que le client lui a présenté une carte tricolore propre aux forces de l'ordre. Malgré ces indices, le crime n'est pas élucidé. Jusqu'en 2021 et l'identification d'un tueur en série, François Vérove, surnommé le Grêlé. Un gendarme à la retraite relève alors des similitudes entre le profil du criminel et cette enquête vieille de 35 ans. Grâce à son témoignage, une information judiciaire est rouverte en novembre dernier par le pôle Cold Case. Des expertises graphologiques pourront être réalisées sur les chèques volés pour déterminer s'il s'agit bien de l'écriture du Grêlé.
Alors le Grêlé a-t-il fait une victime supplémentaire désormais identifiée? On va essayer de comprendre comment les enquêteurs sont remontés à cette piste avec nos invités. Stéphane Selamy, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter police-justice à Paris Match, co-auteur notamment de la traque du Grêlé chez Robert Laffont. Vous connaissez parfaitement l'histoire de ce tueur en série. Et puis Jean-Alphonse Richard, qu'on est toujours très heureux de retrouver.
Aussi.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. D'abord, commençons par la scène de crime, par cette affaire, avant de voir les liens qui peuvent permettre de relier cette affaire au Grêlé. 6 juin 90, un homme abattu. Scène de crime un peu particulière.
Oui, parce qu'encore une fois, mais on l'a retrouvé dans plusieurs affaires du Grêlé, on a un homme qui a été tué d'une balle en pleine tête, qui est attaché à un arbre, qui a été abandonné à son triste sort à cet endroit. Et puis, on n'a pas beaucoup d'éléments au départ. Et d'ailleurs, cette affaire va passer complètement sous les radars. Puisque en travaillant sur ce dossier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait eu aucun élément qui avait fuité dans la presse à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un mystère en fait au départ sur cette affaire.
Est-ce que ça tient aussi au lieu, le bois de Saint-Aubin? C'est un bois qui est connu pour réunir un public peut-être un peu particulier.
Oui, effectivement, c'est un endroit qui est décrit comme un lieu de rencontre pour des gens qui effectivement ont envie de s'adonner à quelques pratiques. Alors est-ce que ça tient à ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on s'est rendu sur place puisque quand on a travaillé sur cette affaire, cette nouvelle affaire qui est liée au Grêlé, on a rencontré des habitants, on a rencontré des anciens élus, et personne n'était au courant de cette affaire. En tout cas, personne ne se souvenait de cette affaire. On a même essayé de retrouver le maire de l'époque, et en fait, on s'est rendu compte que ce monsieur avait refait sa vie aux États-Unis et était décédé le 28 décembre dernier. Donc, on n'a pas pu remonter jusqu'à lui, mais en tout cas, personne sur place ne se souvenait de cette affaire, de ce meurtre, et de cet homme retrouvé attaché à cet arbre.
Cet homme, Gilbert, pourquoi personne ne s'en préoccupe? Il a une épouse.
Bien sûr, c'est pareil là aussi, on a réussi à remonter jusqu'à son épouse, on est allé la rencontrer, elle veut absolument pas s'exprimer. Elle nous a même confié qu'à l'époque elle avait expliqué à ses proches que son mari, donc Gilbert, était décédé dans un accident. C'est vous dire à quel point elle a voulu vraiment passer sous silence cette affaire et cet assassinat de son mari. Donc personne n'était au courant, à part de rares voisins qu'on a pu retrouver et qui avaient entendu parler d'une histoire un peu étrange autour de la disparition de Gilbert, mais pas plus.
Comment va-t-on, le pôle de Nanterre va-t-il se réintéresser à cette affaire?
Alors c'est très intéressant puisqu'en fait on comprend aujourd'hui que c'est un ancien gendarme, enfin un gendarme à la retraite, qui travaillait à l'époque à la section de recherche de Paris, qui était en charge de cet assassinat, qui va alerter en fait le pôle Colquais et notamment et surtout Nathalie Turquet, la juge d'instruction, qui est en charge des affaires liées au Grêlé, et qui va l'alerter donc au début de l'année 2024 en lui disant bah écoutez, moi j'ai travaillé sur une affaire un peu étrange, en tout cas non élucidée, qu'on n'a jamais réussi à sortir. C'est cette affaire de Saint-Aubin du mois de juin 90, et je pense qu'il peut y avoir un lien avec le Grêlé, son comportement et son mode opératoire.
C'est là où, Jean-Alphonse, il y a plein de fils qu'il faut tirer. D'abord, l'arme qui a été utilisée à ce moment-là pour abattre cet homme Gilbert, c'est un MAC 50. Vous êtes le plus spécialiste des armes que moi. Expliquez-nous pourquoi ça nous ramène au Grêlé.
Ouais, parce que c'est une arme qui est utilisée dans la gendarmerie, tout simplement. Donc ça, effectivement, c'est très important. C'est pas une arme qu'on retrouve comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas une arme classique en matière de banditisme. Le MAC 50, c'est une arme un peu particulière. C'est une arme administrative, comment dire. Enfin, je pense que Dominique Rizet...
MAC, c'est Manufacture d'armes de Châtellerault. Exactement. Et c'est l'arme des gendarmes. C'est un 9 mm, puis c'est l'automatique. Absolument.
Donc ça a été important. Donc ça fait le lien effectivement éventuel avec le Grêlé, parce que le Grêlé, il y a quelque chose qu'il faut tout de suite souligner, c'est qu'il est extrêmement déroutant. Stéphane Sélarmi en parle dans votre livre. Il est extrêmement déroutant dans son mode opératoire, parce qu'à la fois on le voit, il a pu utiliser une arme. Il a utilisé le garrot espagnol, c'est-à-dire une manière très particulière d'étrangler les personnes avec des nœuds très particuliers. Et puis on le retrouve aussi étrangler des petites filles avec des liens. Et il est soupçonné aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs dossiers dans les qui ne sont pas sortis encore et qui sont à l'étude aujourd'hui au pôle des Cold Case, où on s'aperçoit qu'il a sans doute, peut-être, en tout cas, il est soupçonné d'avoir donné la mort à deux petites filles en 1987. Donc on est en pleine période d'activité du Grêlé. Donc voilà, donc... On a ce fil conducteur du mode opératoire qui est très compliqué avec le Grêlé. Ça, il faut le dire. C'est pour ça aussi que les enquêtes ont pris du retard et ont tardé jusqu'à ce que le pôle des Cold Case reprenne tout ça. Et ils sont en train, effectivement, de pointer tous ces modes opératoires.
Un élément très important par rapport à ce que vient de dire Jean-Alphonse Richard, c'est aussi cette arme donc particulière, et vous l'avez rappelé aussi Dominique Rizet, ce MAC 50 en dotation dans la gendarmerie. Il faut savoir que lorsque le Grêlé est identifié, donc François Vérov, on est en septembre 2021 par la juge Turquet, et qu'il va se suicider donc en prenant des médicaments antidouleurs, chez lui, en perquisition donc dans le sud, va être retrouvé un MAC 50. Très clairement, dans ses affaires, donc une arme qu'il a eue en dotation lorsqu'il était lui-même employé dans la garde républicaine et qu'il n'avait pas restitué, qu'il avait gardé. Et donc, pour moi aujourd'hui et pour nous, des analyses et des comparaisons au niveau de la balistique vont être opérées entre la douille qui a été retrouvée sur la scène de meurtre donc de Gilbert à Saint-Aubin en 90 et cette arme retrouvée au domicile du Grêlé.
Et ce qui va intriguer ce fameux gendarme dont parlait Stéphane Sélarmi à l'instant, qui s'appelle Claude Félix, qui était un major de la section de recherche de Paris, grade de major, c'est un, l'arme, MAC 50, la munition 9 mm, c'est deux, la façon dont cet homme est attaché dans le bois de Saint-Aubin, qui ressemble, vous le disiez tout à l'heure, à la façon dont était attachée une des victimes à Paris, et puis les fillettes qu'on a retrouvées. Thierry Lévesque, notre confrère journaliste, vient de sortir un livre sur ces quatre fillettes, très intéressant.
Il y a deux cas qui sont très intéressants.
Très intéressant. Ensuite, il y a le chéquier qui est volé à cet homme qu'on retrouve dans la forêt de Saint-Aubin. Et immédiatement, celui qui l'a tué prend ce chéquier et va faire des chèques, plusieurs, dont deux qui sont intéressants. Et les gendarmes vont retrouver ceux auxquels il a fait ses chèques. Il achète une moto à quelqu'un qui vendait sa moto d'occasion. Et il a laissé entrevoir dans son portefeuille une carte tricolore, une carte de gendarme pour le rassurer, genre je te fais un chèque mais regarde je suis gendarme, et c'était un chèque évidemment volé. Et il a aussi acheté un magnétoscope, de la même façon le vendeur du magnétoscope va être retrouvé par les gendarmes de l'SR de Paris et il va leur dire, bah, moi, oui, il m'a fait un chèque mais bon il avait une carte tricolore de gendarme. Donc ce qui va intriguer les gendarmes, ce qui fera qu'un jour le major Félix, vous l'avez dit, va appeler la juge Turquet en disant on a des éléments qui ressemblent au Grêlé dans le meurtre de Saint-Aubin.
Il y a plein d'éléments intéressants dans ce que dit Dominique là. D'abord, la carte de gendarme ou de policier, le Grêlé à plusieurs reprises dans les meurtres qu'il va commettre, ou les agressions qu'il va commettre, joue de sa carte.
Une carte tamponnée, même, disent les victimes qui ont pu le remarquer. Et puis, c'est très important aussi, il y a cette habitude de voler. Ça, c'est une constante aussi chez Le Grélet. Il a volé des chéquiers. Le premier viol qu'il fait en 86, 87, sur des gamins qui sont là. Il y a une fête adolescente dans une maison, etc. Il intervient. Il va partir avec la voiture du papa et avec également son portefeuille. Lorsqu'il y a l'affaire Virginie Delmas, une des quatre disparues, une quatre filles tuées dans la couronne parisienne, c'était le 9 mai 87, il y a des témoins qui vont dire ils ont vu un homme qui ressemble vraiment étrangement au Grélet sur une moto. On va s'apercevoir que cette moto, elle a été payée également avec des chèques volés, elle a été volée. Donc voilà, il y a ce fil conducteur aussi, il y a à la fois les modes opérateurs qui sont compliqués à suivre, parce qu'il peut s'attaquer à des adultes comme à des enfants, donc ça c'est quand même relativement rare en matière criminelle, et ensuite il y a le vol.
Et c'est ces centres d'intérêt qui ressortent à travers cela. C'est un motard, il aime les motos.
Ah oui, exactement, on le sait puisqu'il a été motard dans la police après donc être passé par la garde républicaine donc entre 85 et 88
compagnie et de ensuite, Nanterre, il était dans les Hauts-de-Seine.
Et ensuite exactement, il a été affecté donc à la brigade motocycliste du côté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Donc oui, pour rappeler et pour revenir sur ce que on vient de dire, il y a d'autres objets, et notamment un magnétoscope, puisqu'on sait qu'il va acheter un magnétoscope avec un des chèques volés donc à Gilbert, sa victime de Saint-Aubin. Mais dans une autre affaire, on sait, et qui colle vraiment au Grélet, on sait que lors d'un cambriolage, il va voler un magnétoscope, il va voler différents matériels. Et dans l'affaire polysimulaire, puisque le double meurtre de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc en 1987, il vole des objets, il vole des appareils photos qui sont dans cet appartement. Donc on voit qu'effectivement, il a cette habitude de s'emparer de choses.
C'est un tic, une espèce de tic, parce qu'il n'en a pas vraiment besoin, mais c'est un tic.
Qu'il en fait, il y a quand même une question, c'est qu'en 92, quand il vit à Châtenay-Malabry avec sa femme, sa belle-sœur vient les visiter, elle se retrouve un jour chez eux toute seule, parce qu'ils sont partis faire des activités, elle va vouloir utiliser le magnétoscope, elle découvre dans le magnétoscope une cassette avec des scènes pornographiques, des films pornographiques. Donc peut-être qu'il utilisait ces magnétoscopes pour cela aussi.
On peut se poser la question aussi de savoir s'il n'allait pas les revendre aussi pour pouvoir en tirer profit et ensuite avoir de l'argent, puisqu'à l'époque, faut voir que ce sont des produits quand même qui ne sont pas accessibles forcément facilement, en tout cas qui ont un certain prix.
Il y a un point important, il a fait deux chèques, il les a signés, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait une étude graphologique qui soit faite.
Ah ben certainement, oui, je pense que là tout est étudié. Au pôle judiciaire, là, des cold cases, on laisse absolument rien passer sur cette affaire. Les juges le travaillent à bloc. Vraiment, le dossier du Grélet, il est très important parce qu'on s'aperçoit au fil des jours, des semaines et des mois que le nombre des victimes, on le connaît vraiment pas aujourd'hui. C'est un peu compliqué.
Et parce que, pour compléter ta question, Philippe, ces chèques existent encore.
Eh oui.
Ils sont dans la procédure,
effectivement. Donc, il y a une possibilité d'analyser, faire des comparaisons de l'écriture entre celui qui a signé ses chèques, qui les a remplis, et l'écriture du Grélet, puisqu'ils l'ont.
Alors ça, c'est de la graphologie. C'est pas une science certaine, mais c'est quand même une approximation, mais très intéressante. Ensuite, il y a la balle dont vous avez parlé. Je sais pas si c'est la douille ou le projectile de la balle. Ouais. Donc, qui pourrait être comparé
à l'arme qui a été retrouvée, donc, au domicile du Grélet.
Ça fait deux éléments pour peut-être l'identifier. Troisièmement, il y a de l'ADN qui est retrouvé sans doute sur la scène à Saint-Aubin, à la mort de Gilbert, puisque on a retrouvé un gant, c'est ça, un gant, les cordes qui ont servi à attacher. Donc, si on a gardé ces éléments, c'est intéressant.
Il va falloir les exploiter à nouveau, effectivement, et faire de nouvelles recherches sur l'ADN qui pourrait être resté sur ces éléments.
C'est fascinant, cette affaire sur le parcours du Grélet. C'est aussi fascinant sur le travail du pôle de Nanterre, parce que là, en vous écoutant et en décortiquant tous les points et la manière dont travaille le pôle Colquais, c'est véritablement ce qui fait sa force.
Là, ils ont fait un gros travail sur le Grélet. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites. Il y a des gros moyens qui sont déployés. Et effectivement, tous les cas qu'on rapporte au pôle Colquais, parce que les cas sont en train de remonter, là, il y a des témoignages qui étaient ignorés qui sont en train de remonter. Tout est vraiment étudié de très près. Ça, c'est intéressant. On est loin d'avoir l'épilogue de cette histoire.
Dans notre livre, en fait, quand il a été publié en mars 2022, on disait qu'il y avait une trentaine de faits qui étaient étudiés par Nathalie Turquet, dont 9 homicides. Et on n'avait pas encore l'homicide de Saint-Aubin. Vous voyez un peu, j'allais dire, l'étendue des faits qu'on pourrait attribuer au Grélet.
Et sur le travail du pôle Colquès, eh bien le pôle s'est fendu d'une petite déclaration, parce qu'il y a un communiqué de presse, et dedans je vous lis 5 lignes. Hein. « Depuis la création du pôle crime sériel, ou non élucidé le 1er mars 2022, sur 431 procédures signalées au parquet du pôle, 116 ont fondé une saisine du parquet, du pôle, dont 13 concernant des parcours criminels, 97 procédures sont diligentées par des juges d'instruction, 19 procédures sont des enquêtes préliminaires suivies par le parquet. Et enfin, l'une de ces personnes mises en examen avant la saisine du pôle, Monique Olivier, a été condamnée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine, etc., etc. Donc, sacré boulot de ce pôle qui a été créé par Éric Dupond-Moretti, hein, avec Jacques Dallès, ancien procureur.
Et on va parler
pour soi souvent
dans, pôle de notaire dans un instant. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'était passionnant de se plonger dans ce parcours de Grélé, cette nouvelle affaire ouverte 35 ans après. Merci beaucoup.